Donc, Luc, Mme Gazal, qui est députée du plateau, dans le fond, parce que Mercier, oui. c'est le plateau. Est-ce que vous avez un signe secret entre communistes du plateau?
Ben, on a des réunions tous les soirs.
Tous les soirs? Mon Dieu, c'est de la job, la révolution.
Le repas est fourni. C'est on mange russe, hein? On mange des plats russes.
OK. Ouais. Puis vous chantez l'hymne national soviétique. OK, parfait. Parle-moi de ce projet du promoteur Carbone Léo dans Ville-Mont-Royal.
En plus, le gars s'appelle Carbone Léo, imagine-toi. Il n'a pas choisi son nom pour un projet qui va produire autant de pollution. Anyway, j'appelle le 1540 parce que moi, je refuse les noms qui sont imposés par les firmes de relations publiques quand ils voient que le premier nom n'a pas fonctionné. Le 1540, ils se sont dit, wow, les gens vont juste penser à l'impact transport. Si on l'appelle ça comme ça, on va y trouver un nouveau nom. C'est Royal Mount.
Et parce qu'à l'origine, ils voulaient l'appeler 1540?
Tout le monde parlait comme ça. Okay. Avant qu'il y ait un nom, tout le monde disait 1540, parce que, en référence au 1030. Mais y a-tu quelque chose de royal dans ce projet-là? Puis y a-tu un mont quelque part? West Mount, on peut comprendre, c'est une montagne, mais tu vois-tu un mont, c'est plat comme une galette. Mais il suffit de mettre deux mots collés un sur l'autre qui n'ont aucun sens, ni un ni l'autre, puis là, ça devient...
Royal Mount.
Ouais. Ouais.
Un designer suédois qui a dû inventer ça.
Bon, en tout cas, c'est un
premier affaire. Pourquoi tu ne tripes pas sur ce projet-là?
Parce que il n'y a rien de ce qu'on en a besoin. Ruba l'a bien dit. On en avait parlé à notre réunion où on se parle en russe hier. Quand tu te poses la question de savoir qu'est-ce qui manque à Montréal, la première chose qui manque, c'est des logements pour les familles. C'est des logements pour des familles de la classe moyenne et de la classe moyenne parfois inférieure. Et en termes de revenus, là, il n'y en aura pas. Ce projet-là n'est pas soumis au règlement sur le logement social puisqu'il est à Ville-Mont-Royal. D'ailleurs, qui irait s'installer en haut d'un centre d'achat? En plus, le type de logement qu'il va avoir là, pour avoir un quartier, il faut que tu aies à peu près 8 000 logements. À partir de 8 000 logements, tu as une épicerie, tu as assez de monde pour avoir une école, tu as du commerce de première nécessité, etc. Rappelle-toi comment le Vieux-Montréal était mort pendant des années et des années.
Il y a 20 ans, quand je suis revenu à Montréal, en 99, là, c'était la zone dans le Vieux-Montréal.
Sais-tu pourquoi? Il y avait 1500 personnes dans le Vieux-Montréal. Après, c'est passé à 3 000. C'est à partir du moment où ça a atteint 4 000 que là, tu as commencé à avoir de l'activité. Mais en bas de 4 000, ce que tu as, c'est essentiellement des personnes seules qui vivent dans un logement, qui n'ont pas besoin de piscine, de parc, d'école, de garderie, de rien, ils n'ont pas besoin de service. Et c'est pour ça que Ville-Mont-Royal veut avoir un maximum de logements. Elle a dit, vous ne dépasserez pas X milliers, le chiffre bouge en fonction des négociations. Mais au début, il ne voulait pas plus que 1 000, après 2 000, là, je pense qu'on rentre à 3 000. Tandis que le promoteur, lui, veut pousser pour en avoir plus. Mais il n'y aura pas un quartier, là. Il va y avoir des logements en haut d'un centre d'achat. Et ce qui me fâche, c'est que là, il a déposé ses nouveaux plans. Bon, ce que je déteste en plus, une autre affaire que je déteste des films de relations publiques, c'est quand ils montrent des choses impossibles, comme par exemple des armatures sur les toits. Je sais pas si tu as vu l'image.
C'est quoi des armatures?
Des armes? Des arbres.
Des arbres matures,
ouais. Il y a tout le temps.
Sur toi, des arbres?
Ben oui, il a mis des arbres partout. Il a mis des arbres sur les toits. Il en a mis sur les balcons. C'est un projet vert. Ben oui, les
images. Je te niaise pas, là.
Non, je te niaise pas.
Tu peux pas avoir un arbre mature sur un toit?
Ben, va voir l'image qui a été mise, sortie aujourd'hui. Il y a un arbre mature.
À moins que je me trompe, là.
Au 40e étage. Ben non, tu peux pas. Ça prend 3 mètres de terre, puis ça prend de l'arrosage continu, etc. Et c'est au vent. Et il a mis plein d'arbres aussi. Il a mis plein de balcons extrêmement verdis. À partir du 20e étage, il y a tellement de vent, puis il y a de la poussière dans ce coin-là. Il y a tellement de vent que la possibilité d'avoir un arbre feuillu au 20e étage est quasiment nulle, à moins que tu t'en occupes tous les jours, et même. Alors, c'est ces fausses images-là. Tu sais, il y a tout le temps un petit enfant qui vend de la limonade sur le bord d'une autoroute dans les projets d'architectes, etc. C'est des fausses images. C'est un faux projet. C'est un faux quartier. C'est un faux discours. Et tout le monde a eu la faiblesse de dire oui. C'était à l'époque de Coderre. J'avais rencontré Coderre à l'époque. J'ai dit, Monsieur Coderre. Je l'appelais Denis, mais pour le public, j'ai dit, Monsieur Coderre. Faut que vous disiez non. Et il disait, hey, toi, t'es toujours en train de parler de développement économique. Ça prend du développement économique pour Montréal. On manque d'investissement. C'était à moitié vrai seulement. Là, il y en a de l'investissement. On va pas dire non. Michel Leblanc de la Chambre de commerce. Michel Leblanc, là, tu sais, la roulette à bingo, la mixeuse à roulette à bingo, là, où tu mixes, là, puis il sort des numéros. Ben, lui, tu mets des mots, là, développement économique, fierté, Montréal, international. Tu mets ça, tu mixes, tu brasses tout le temps le même discours, les mêmes mots qui ressortent.
Ce que tu dis, c'est que la classe politique, la classe d'affaires, naturellement, voit ça d'un bon œil.
Oui, à l'époque de Coderre. Puis là, Valérie Plante est arrivée. Bon. Valérie, elle avait deux choix. Quand le projet est sorti, la Commission de développement économique, urbanisme, habitation a sorti 15 recommandations contre le projet sévères en disant « ça n'a pas de bon sens ». À peu près ce que je te dis là, en des termes un peu plus prosaïques. Et mais Valérie n'avait pas le pouvoir de dire non. Elle n'avait pas le pouvoir parce que ça appartenait au maire, tu l'as dit tantôt, au maire de Ville-Mont-Royal. Et elle a dit « ben on va essayer plutôt d'améliorer le projet ». Et là, elle a dit au gars, ben, pourrais-tu faire du résidentiel? Le service d'urbanisme de la ville de Montréal s'est mis en discuter avec le promoteur et ils ont regardé, est-ce qu'on pourrait avoir du résidentiel? Est-ce qu'on pourrait avoir des résidentiels qui donnent sur rue et non pas dans un centre d'achat? Est-ce qu'il pourrait y avoir du transport en commun? Et le gars, ce qu'il vient de déposer, c'est un projet amélioré en fonction des demandes qui avaient été proposées par le service d'urbanisme de la ville de Montréal. En échange de quoi? Il va exiger, puis il va obtenir des investissements du ministère du Transport pour avoir des bretelles d'autoroute. Il va peut-être obtenir l'ouverture de Cavendish sur Cavendish qui va coûter 350 millions de dollars puis qui va permettre de débloquer la circulation du côté ouest. Il va peut-être obtenir des investissements dans les infrastructures et c'est là qu'il faut faire très attention. Moi, je pense qu'il ne faut rien lui donner. Il ne faut rien lui donner parce que c'est un projet pour lui, pour ses investisseurs, c'est pas un projet pour Montréal.
Écoute, la mairesse n'avait pas le pouvoir de dire non. Penses-tu qu'elle a fait ce qu'elle pouvait pour combattre le projet?
Non. Non, je pense pas. À l'époque, regarde. Elle voulait pas avoir l'air contre le développement économique. Michel Leblanc de la Chambre de commerce, il téléphonait tous les jours. Puis il faisait de la grosse pression. Pour une fois qu'on a un investissement de 2 milliards à Montréal, etc., etc., etc. Si elle avait dit, moi là, je me braque, c'est non. Puis si ce projet-là se fait, il pourra pas venir avec moi vers le ministère du Transport pour demander, par exemple, une autorisation pour la bretelle de piétonne qui va marcher, qui va être entre le Rail Mount puis le métro. Il pourra pas avoir ses entrées-sorties à partir de l'autoroute. Mais si elle faisait ça, elle s'enfermait dans un rôle extrêmement négatif puis peut-être pas vainqueur. Elle a choisi de pas aller là.
Tu sais, Luc, j'ai écrit là-dessus, OK? J'ai écrit là-dessus dans la presse. J'en ai parlé ici en entrevue. Je n'ai parlé chez Paul Arcand l'année passée à la commission. Et là, il y a des gens qui m'écrivent et me disent « Ouais, t'es contre le développement économique, c'est 2 milliards d'investissements. Ce que tu racontais là. » Je suis pas contre ça. Je compte une petite ville, toute petite ville, Ville-Mont-Royal, qui impose un projet qui va avoir des ramifications partout. Et je le répète, si vous êtes dans le trafic sur la 40 présentement, si vous êtes dans le trafic sur la 15 vers le nord, par exemple, encore à Montréal, si vous êtes sur l'autoroute des Caries, si vous pensez que c'est long présentement, attendez que Royal Mount sorte de terre. C'est 20 à 30 minutes de plus si vous êtes sur la 40 entre Cavendish et la 15. C'est fou net. C'est bon pour les gens de Ville-Montréal qui vont peut-être payer moins de taxes parce qu'ils vont aller chercher 25 % de taxes de plus sur leur budget de 91 millions. Mais c'est bon pour personne d'autre.
Absolument. Puis si tu avais été là quand le Carbon Léo a déposé les mesures d'atténuation pour la circulation, parce que quand ces chiffres-là sont sortis, lui, il avait pas les mêmes chiffres, hein, puis il minimisait constamment. Quand les vrais chiffres sont sortis, ils ont dit, ben là, il faut que tu fasses quelque chose. Dans ses propositions, il a proposé la bretelle pour aller vers le métro, mais il a aussi proposé des rabais pour les repas à 6 heures le soir pour que les gens qui auraient songé à quitter à l'heure de pointe quittent un peu plus tard. Hey, écoute, 70 000 voitures de plus à cet endroit-là. C'est un quart de la circulation en plus sur cette intersection-là.
Tu sais, Luc, je comprends le promoteur. Je comprends le maire de Ville-Montréal, même, je trouve ça égoïste d'un point de vue de cohésion régionale, OK? Mais j'ai une petite pensée pour quelqu'un qui est plus en politique. Et cette personne-là, c'est Jean Charest. Quand Jean Charest, dans l'opposition aux péquistes, a promis de défaire les diffusions, a promis de défaire une île, une ville... C'est ça qui l'a permis. C'est ce genre de bêtises-là qui l'a permis.
Totalement.
Parce que si on avait une île, une ville, on n'aurait probablement pas permis ça. On aurait encadré ça d'une façon différente. Là, tu as une bourgade, Ville-Mont-Royal, qui impose ça à tout le monde. Si vous êtes en train de poireter sur la 15, dites merci au maire de Ville-Mont-Royal parce que quand Royal Mount va sortir de terre, vous allez poireter encore plus.
Sur un vrai temps. Peux-tu te rappeler une chose? Quand Philippe Roy faisait son porte-à-porte pour
le maire de Ville-Montréal.
Il faisait son porte-à-porte. Il disait, je vais vous amener des réductions de taxes de 5 000 de 10 000 par maison. Franchement, c'est les gens les plus riches de Montréal. Ils vont avoir des réductions de taxes pendant que les autres vont poireauter au coin de la 15 et de la 40, comme tu le disais.
Juste pour donner une idée d'ordre de grandeur, là, OK? Le budget de Ville-Montréal est de 91 millions de dollars. Et avec ça, avec ce projet-là, vont aller chercher 27 % du budget annuel de plus, 25 millions. Bref, ils avaient à Ville-Montréal 25 millions de bonnes raisons de dire oui à ce projet qui va emmerder royalement tout le monde qui est autour. Merci, Luc.
Merci à toi.